Et voilà, 15h15, on est toujours ensemble pour cette deuxième édition du Salon Bourse Live, les rencontres. Comprendre le contexte actuel pour faire les meilleurs choix en termes de stratégie d'investissement. Bah oui, c'était un petit peu la promesse de cette seconde édition. Et nul doute que l'intervenante de cette webconférence va apporter des réponses utiles pour vous qui nous regardez et décrypter pour nous l'environnement économique et financier dans lequel nous nous trouvons. Et surtout, bah justement, les choix qu'il va falloir faire pour aborder tous ces sujets. J'ai avec moi sur le plateau aujourd'hui Lilia Pétavin, directrice exécutive et stratégiste de portefeuille chez Goldman Sachs. Bonjour Lilia.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez rapidement présenter Goldman Sachs pour les investisseurs? Parce que bon, voilà, même si le nom, il est forcément ultra familier, c'est important de savoir ce que recoupent toutes les activités de cette célèbre banque d'investissement.
Oui, bien sûr. Donc, Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement mondiale qui est établie en France, à Paris, depuis 1987 et qui recoupe toutes les activités classiques d'une BFI, donc financement, intermédiation au sein des marchés, conseil, mais aussi gestion d'actifs et banque privée. Et je dois dire que le bureau parisien a été assez dynamique ces dernières années, puisqu'il y a encore de ça 3-4 ans, nous étions une équipe de moins de 100 personnes. Mmh. Et d'ici la fin de l'année, nous serons probablement près de 350. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont rejoint le bureau de Paris pour participer à ce dynamisme français, qui, je trouve, est un dynamisme même assez européen, parce que je remarque que le bureau de Paris a tendance à devenir un hub pour l'ensemble de nos clients qui sont sur le continent européen et pas seulement nos clients français. Donc je suis ravie d'être avec vous et je pense que ça témoigne aussi de notre volonté de nous ancrer sur le territoire français et d'offrir des services assez complets à des clients assez variés, tels que les clients particuliers de Boursorama aujourd'hui.
Bon, et des clients particuliers qui ont sans doute pas mal de questions. Et on va parler de cette situation, je le disais dans mon lancement. Allez, je vais oser le mot stimulante sans doute, j'imagine, pour une stratégiste de portefeuille telle que vous. Situation jamais vue depuis plus d'une dizaine d'années. Inflation qui flambe des deux côtés de l'Atlantique. Resserrement monétaire en cours, là aussi, côté Fed, même s'il est un peu plus avancé côté américain que côté européen avec la BCE. Réduction de liquidité sur les marchés. Menace sur la croissance. C'est presque le scénario d'un film catastrophe. Comment vous analysez, Lilia, la situation que nous sommes en train de traverser?
C'est vrai que c'est une situation qui est très intéressante parce que je pense que nous sommes à la charnière, au tournant entre deux mondes, entre deux cycles. Celui qui a suivi la crise financière de 2008, qui a été caractérisé par des craintes déflationnistes et une chute sans précédent des taux d'intérêt. Et le cycle dans lequel nous sommes depuis deux ans, dans lequel nous avons une inflation qui s'établit autour de 8% dans la zone euro, une banque centrale qui s'apprête à remonter les taux le mois prochain pour la première fois depuis 11 ans, et des taux 10 ans allemands qui sont autour de 1,5%, alors qu'ils ont été globalement négatifs depuis 2016. Donc ça a des implications très importantes pour les investisseurs et nous les avons bien détaillées dans un récent rapport qui s'appelle « Stratégie dans le monde postmoderne ». Mmh. Et pour vous en donner deux exemples, je pense que, la remontée des taux signifie que les rendements sur l'ensemble des actifs financiers vont être beaucoup moins importants que ces dernières années. Et ce qui est assez frappant pour moi sous la surface du marché actions, c'est que nous sommes probablement en train d'assister à la fin de la suprématie des actions dites de duration longue. Donc si je regarde...
Il faut expliquer ce que c'est pour les gens qui regardent la duration longue pour une action.
Par exemple, dites de croissance, MSCI Growth a surperformé les actions de value de 185% entre 2006 et 2020. Depuis le début de l'année, nous voyons un renversement de cette tendance et c'est les actions value qui ont surperformé la croissance de 25%. Si je regarde la prime que les investisseurs paient aujourd'hui pour les actions de croissance, elle est encore positive, mais elle est passée de 140-150% en début d'année à 120% au moment où on se parle. Donc beaucoup d'implications.
Bon, et action value, action décotée, ou ce qu'on pourrait dire actuellement pour expliquer un petit peu le retour en grâce de cette classe d'actions. Alors, on parle souvent d'un pic d'inflation avant que la situation ne s'améliore, un pic à passer. On a cru le voir, en tout cas la Fed, les investisseurs avaient cru le voir en mars aux États-Unis, et puis mauvaise surprise en mars, du coup augmentation de 75 points de base des taux aux États-Unis, peut-être une nouvelle à suivre aussi forte, on ne sait pas. Et cette question, boule de cristal un petit peu, Lilia, quand est-ce qu'il arrive ce pic d'inflation ? Et puis est-ce que c'est un pic ou est-ce que c'est un plateau ?
Oui, alors vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de ce pic. C'est vrai que si l'on regarde les récessions qu'il y a eu aux États-Unis depuis 1970, nous remarquons que lorsque les récessions ont été induites par des politiques monétaires, donc par une augmentation des taux d'intérêt, le marché action a tendance à rebondir au moment où les banques centrales prennent un tournant accommodant et deviennent à nouveau dovish, même si la situation macroéconomique continue de se dégrader. En moyenne, 6 mois après le pic d'inflation, les actions sont en hausse de 15% et surperforment les taux de 10%.
Ah oui, donc c'est un bon indicateur.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le timing de ce pic d'inflation, que nos économistes anticipent au mois de septembre dans la zone euro, d'accord, avec une inflation qui atteindrait un pic légèrement au-dessus de 9%.
Et vous êtes au-dessus de l'INSEE, hein ? Je crois que voilà. L'INSEE était autour de 7, je crois. Là, c'est carrément 9.
Et c'est vrai que ce pic même a été révisé à la hausse récemment. Ouais. Et je pense qu'il y a de l'incertitude sur ce mois de septembre, parce que là, nous venons d'avoir à nouveau des perturbations en termes d'approvisionnement de gaz dans la zone euro, notamment donc le gaz russe. Qui vient approvisionner notamment l'Allemagne et l'Italie. Donc tout ça génère encore plus d'envolées sur les cours du gaz et encore plus d'incertitudes.
Donc un pic d'inflation. Moi, j'ai retenu quand même septembre. On va voir ce que ça donne. Inflation toujours plus forte, en tout cas qui reste forte. Resserrement monétaire en cours et cette crainte, pour compléter le tableau, peut-être d'une récession en Europe, aux États-Unis dans les mois qui viennent. On rappelle, la définition technique de la récession, c'est 2 trimestres de croissance négative consécutive. Est-ce que c'est un risque qui nous pend au nez dans les mois qui viennent ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que le risque de récession, c'est quelque chose qui est présent à l'esprit de tous les clients auxquels nous parlons. Ouais. Et qui a fait bouger les marchés, notamment davantage encore sur le mois de juin. Mmh. Le dollar s'est apprécié. Les valeurs cycliques dans le marché actions ont sous-performé les valeurs défensives. Le prix des métaux a commencé à baisser et tout simplement les taux américains ont également commencé à baisser le marché obligataire anticipe déjà une baisse du taux directeur de la Fed dès mai de 2023. En plus de ça, c'est vrai que la semaine dernière, nous avons eu de très mauvais chiffres concernant la croissance dans la zone euro, avec le PMI prévisionnel du mois de juin qui a fortement baissé. Et comme je l'évoquais,
peut-être le PMI, c'est l'indice des directeurs d'achat, c'est un indicateur avancé de l'économie qui peut donner un petit peu la tendance de l'évolution de l'économie dans les mois à venir, c'est ça, Lilia ?
Exactement. Ouais. Et quand il reste au-dessus de 50, nous sommes dans une expansion de l'activité économique. Quand il passe en dessous de 50, dans une contraction. Donc aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 52. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions aux alentours de 55, donc en large expansion, si je puis dire. Donc des chiffres inquiétants, plus des problèmes d'approvisionnement de gaz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit l'Allemagne se met à rationner l'utilisation de l'électricité par ses entreprises et donc ça crée le risque qu'il y ait une chute de la production. Dans un pays au sein duquel nous estimons que l'activité est aujourd'hui en contraction, d'après nos indicateurs sur le mois de juin.
D'accord.
Soit l'Allemagne ne fait rien, et auquel cas il est estimé qu'en février, si jamais justement les flux de gaz ne reprennent pas mi-juillet après la maintenance sur le pipeline Nord Stream, si ces flux-là ne reprennent pas, il est estimé qu'au mois de février 2023, l'Allemagne n'aura plus de gaz. Donc de gros risques en termes de récession, et nos économistes ce week-end ont révisé à la hausse la probabilité que l'on sombre dans une récession dans la zone euro à 40% dans l'année qui vient.
D'accord.
Et nous, stratégistes, nous avons révisé à la baisse nos anticipations de profit. Nous ne voyons pas de profit réalisé par le Stoxx Europe 600 l'année prochaine.
D'accord.
Ce n'est pas proprement un scénario récessif.
Oui.
Parce qu'en moyenne, dans les récessions que nous avons eues depuis 1990, les profits chutent de 30%. Mais en effet,
soft,
les risques ouais. ne font qu'augmenter.
Bon, on a posé le contexte et on est désolé, il n'est pas forcément très enthousiasmant. Et la question qu'on se pose, quand on nous écoute, quand on a toutes ces infos, c'est que faire notamment en termes d'allocation d'actifs. Parce qu'on va rajouter là aussi une dimension, c'est que là où on a des classes d'actifs qui se complètent, qui permettent quelquefois d'amortir une partie du risque, bah, dans cette période qu'on vient de traverser, ça n'a pas fonctionné puisqu'elles se sont toutes repliées en même temps.
Oui. Mais alors, je pense qu'il faut distinguer sans doute deux horizons. Mmh. Il y a un horizon à court terme qui me paraît être très délicat. Et d'ailleurs, nous venons de baisser toutes nos anticipations, nos prévisions de prix sur les marchés actions européens. Donc maintenant, nous voyons une baisse du marché actions d'à peu près 6% à horizon 3 et 6 mois en Europe.
D'accord.
Je pense qu'il va être difficile d'obtenir de la clarté dans les mois à venir, justement sur ce fameux pic d'inflation. En plus de ça, nous n'avons pas encore vu de révision à la baisse des anticipations de profit sur le marché actions. Donc ceci est aussi devant nous. Et si je regarde la performance du marché actions et que je la compare à ces fameux PMI, qui sont des indicateurs de croissance en temps réel dans la zone euro, il y a une forte corrélation. Et je vois que le marché est consistant avec des PMI légèrement en dessous de 50. Donc, comme je vous le disais, ça veut dire une contraction, mais très légère. Mm-hmm. En moyenne, dans les récessions que nous avons eues depuis les années 60 aux US, les PMI baissent aussi bas que 40-44. Donc, notre vue, c'est qu'à court terme, probablement, il y a encore de la marge pour que la correction sur le marché actions continue. Mm-hmm. Et en termes d'allocation d'actifs, c'est la raison pour laquelle nous sommes neutres sur les actions, surpondéré sur le cash,
d'accord,
surpondéré sur les commodités et sous-pondéré sur les obligations et le crédit. En revanche, je pense qu'à moyen terme, nous avons une image très différente. Si nous parvenons à avoir une inflation qui se calme, mais qui reste néanmoins plus élevée que dans le cycle précédent, et que les entreprises parviennent à générer des profits, ça pourrait être un environnement très favorable aux actions. Donc, nous sommes surpondérés sur les actions à 12 mois.
D'accord.
Et nous anticipons un rebond de 14%. Si j'inclus les dividendes, ça vous donne un rendement de 18%. C'est la principale différence dans notre allocation d'actifs sur ces deux horizons-là. Si vous regardez un petit peu les niveaux de valorisation, ils ont fortement chuté sur le marché actions depuis le début de l'année, beaucoup plus que sur le marché obligataire.
Oui.
Ce qui veut dire qu'une mesure comme l'equity risk premium, qui vous permet un petit peu de juger des niveaux de valorisation entre les actions et les obligations, cet equity risk premium, il reste assez élevé et nous pensons qu'il peut descendre plus bas. Ce qui veut dire que les actions auraient de la marge pour surperformer les obligations.
Ça voudrait dire que dans ce contexte de remontée des taux, finalement, les actions peuvent bien se comporter. Parce que j'imagine aussi que c'est une inquiétude qu'on peut avoir en se disant ça va forcément pénaliser les marchés actions.
Oui, alors il y a plusieurs facteurs à prendre en considération quand il s'agit de hausse des taux et performance du marché actions, notamment performance relative. Il y en a trois, je dirais. Mmh. Le premier, c'est de quel niveau absolu de taux est-on en train de parler et notamment quel niveau absolu de taux réel. Aujourd'hui, il reste encore légèrement négatif. Donc sur ce point-là, c'est pas ce qu'il y a de plus préoccupant.
Donc les taux réels, les taux nominaux, ce qu'on voit, mais corrigés de cette inflation très forte dont on parle.
Exactement. Le deuxième point, facteur à prendre en compte, c'est quelle est la rapidité avec laquelle les taux remontent. On sait que quand les taux bougent de plus de deux écarts types, en général, les actions ont tendance à corriger et à avoir du mal à digérer cette hausse rapide des taux qui vient étouffer la croissance. Donc forcément,
c'est
mauvais pour les
actions.
C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Et le troisième point, c'est la source, l'origine de l'inflation, de la hausse des taux. Et en ce moment, nous avons une inflation qui est plutôt générée par l'offre que par une augmentation de la demande. Donc, même chose, c'est ce qui vient en général diminuer le revenu réel disponible des ménages et qui augmente le risque d'une récession. Donc, à court terme, les choses ne sont pas... sont plutôt délicates pour le marché actions.
Ouais, bon. Est-ce qu'il y a, autre question, des zones qui peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu ? Est-ce que c'est le réflexe de sécurité, le flight to quality, on revient sur les marchés américains, que ce soit la devise, que ce soit les actions. Est-ce que c'est l'Europe ? L'Europe, beaucoup de stratégistes pensaient que l'année 2022 serait l'année de l'Europe, et puis on voit que c'est malheureusement en train de tourner court. Ou est-ce que ce sont, par exemple, les émergents, alors que, à contre-courant de tout le monde, il y a un pays, et pas des moindres, qui mène une politique plutôt offensive sur la relance, c'est la Chine.
Oui. Je pense qu'à court terme, notamment si nous nous orientons vers un scénario de récession, l'environnement est compliqué pour l'Europe, parce que l'Europe sont des actions qui sont assez cycliques, volatiles. Nous avons une guerre qui a lieu sur notre continent, des risques souverains sur la périphérie avec la remontée des taux. Donc j'aurais du mal à imaginer l'Eurostox surperformer le S&P à court terme. D'ailleurs, on souligne souvent la relativement bonne performance de l'Europe depuis le début de l'année, parce que l'Europe a fait la même performance que les US alors que nous avons eu un gros ralentissement de la croissance. Mais c'est un peu une performance en trompe-l'œil. Si je regarde la performance en dollars, l'Europe, l'Eurostox a sous-performé de 7 points de pourcentage.
Il y a un effet de devise qui fausse un petit
exactement,
peu la donne.
Les actions américaines. En revanche, au-delà de ce scénario de récession, je pense que c'est une période qui peut être favorable à l'Europe, ou en tout cas que les 15 dernières années de sous-performance massive des actions européennes sont probablement derrière nous. Le point le plus important à mes yeux, ce sont les fondamentaux. C'est la première fois que nous anticipons une croissance des profits similaire sur les deux marchés, que ce soit nous ou le consensus. Nous sommes aux alentours d'une croissance de l'EPS de 7% cette année sur les actions européennes.
Donc, 8%, c'est bénéfice par action. Hein. Je traduis un
bénéfice
petit peu.
Bénéfice par action, merci Laurent. Donc 7% en Europe, cette croissance-là, et 8% croissance des BPA aux US. Pour rappel, entre 2007 et 2019, donc 2007, le pic des BPA avant la crise, et 2019, le pic avant le Covid, les BPA ont cru de 90% aux États-Unis, alors qu'ils n'ont cru que de 2% en Europe. Donc, les fondamentaux sont aujourd'hui très différents. Et les multiples sont très différents aussi. Les actions européennes aujourd'hui, elles sont à une décote de 3%, de 30% par rapport au S&P. Et si je regarde même le PE des actions européennes aujourd'hui, il est 2 points en dessous de la moyenne historique, alors que le PE des actions américaines est tout à fait en ligne avec sa moyenne historique. Et le dernier point que je soulèverais, c'est que la croissance verte, la décarbonisation, la dépense fiscale faite auprès de la défense, par exemple, à nos yeux, devrait générer une partie de la croissance de ce nouveau cycle. Et l'Europe est très bien positionnée à cet égard.
Donc il y a des facteurs de soutien pour l'Europe. J'aimerais quand même vous entendre sur la Chine. Alors est-ce qu'on retourne en Chine, là où ça va plus tôt ? On a l'impression que le tempo est un petit peu différent de ce qui se passe dans les économies américaines et européennes.
Mais c'est vrai que la Chine, depuis le début de l'année, a même surperformé les US. Néanmoins, si je regarde une performance à 5 ans, la performance sur les pays émergents est de 0%. Donc on a eu un rattrapage principalement autour des multiples qui s'est fait depuis le début de l'année, ce qui était ce que nos stratégistes asiatiques anticipaient. En revanche, si on prend un petit peu de recul quand même, le marché américain est beaucoup plus résilient et encore largement en hausse sur un horizon des 5 dernières années.
Bon, voilà pour cette précision. Si on s'intéresse maintenant, on reste sur le marché actions, sur les secteurs. Il y a eu un fort mouvement, vous l'avez évoqué, de correction sur les valeurs de croissance, les technos. Une forte appréciation des actions liées, là aussi ça ne va pas être surprenant, aux matières premières, notamment aux énergies fossiles, au pétrole. Des valeurs bien sûr liées à l'armement qui sont aussi très bien comportées. Question très concrète, quel secteur aujourd'hui il faut privilégier ou peut-être plus spécifiquement, quel profil d'entreprise qui va pouvoir affronter cet environnement, cette mer agitée ?
Alors, nous avons des recommandations assez variées. D'une première part, nous sommes surpondérés sur les valeurs énergétiques. Mmh. Parce que ce sont celles qui sont le plus à même de bénéficier de cette inflation très forte, justement. Et leur niveau, leur multiple reste relativement attractif. Un deuxième secteur que l'on favorise, ce sont les valeurs bancaires, les banques, qui ont eu une performance tout à fait honorable depuis le début de l'année, malgré le ralentissement de la croissance, parce que nous partons de niveaux d'intérêt qui sont tellement bas que toute hausse des taux d'intérêt de ce niveau-là est positive pour les marges des banques, même si la courbe des taux ne se pentifie pas beaucoup. Oui. Et ensuite, parce que, on en a parlé, les risques de récession sont élevés et en plus augmentent. Nous voulons aussi avoir des valeurs défensives dans notre portefeuille. Mmh. En l'occurrence, nous sommes surpondérés sur le secteur de la santé, sur les télécoms, qui sont peut-être les deux secteurs défensifs qui ont des marges peu impactées par la croissance du prix des commodités. Les secteurs que nous favorisons le moins, ce sont ceux qui sont liés à la consommation et qui peuvent encore sous-performer, malgré le fait qu'ils aient déjà énormément sous-performé depuis le début de l'année, car on voit dans la zone euro aujourd'hui que nous avons un revenu réel des ménages qui est très fortement négatif.
Donc, toujours à cause de cette problématique de pouvoir d'achat, c'est ça?
Exactement.
Bon, moi j'ai retenu bancaire, énergie, santé, et le dernier, je ne sais plus.
Télécom, qui est un autre secteur défensif qui normalement n'est pas trop impacté par le prix des commodités et qui a des marges qui ont tendance à être stables. Et donc c'est à nos yeux ce que les investisseurs vont chercher à retrouver dans ce cycle.
Quel scénario, vous l'avez déjà un petit peu adressé finalement au travers de vos différentes réponses, Lilia, vous avez pour l'évolution des marchés d'ici la fin de l'année et puis... Je suis obligé de vous poser la question. On n'est pas si loin des vacances. C'est généralement la période où on oublie tout. On prend sa serviette, on laisse son ordinateur. Mais est-ce que on prend des précautions? Est-ce que l'été peut être agité, meurtrier sur les marchés ou pas?
Mais c'est vrai qu'on l'a abordé. Nous, si nous regardons nos prévisions de prix, nous avons un marché actions en baisse de 6-7% sur le court terme. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que historiquement, lorsque je regarde les récessions depuis 1990, le moment où le marché action rebondit est le moment où nous entrons en récession. Puisque le marché action, évidemment, anticipe un temps d'avance sur la récession. Donc, ça a été le cas en 2001, ça a été le cas en 2011 et ça a été le cas en 2020. Parce que ces récessions ont été assez... rapide. Mmh. Par contre, ça n'a pas été le cas en 1991 et ça n'a pas été le cas en 2008. En 1991, la récession a duré 3 ans. En 2008, la récession était historiquement sévère. Donc, à horizon 12 mois, encore une fois, nous anticipons un rebond sur le marché actions pour le moment.
Et est-ce qu'on peut avoir vraiment du tangage, entre guillemets, avec les semestriels? Moi, c'est ça qui me... Voilà, fin juillet, les semestriels vont tomber, on aura déjà un peu de l'impact de la crise en Ukraine. Est-ce que là, on peut s'attendre à peut-être de mauvaises surprises et puis peut-être des sanctions du marché?
Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que, bien sûr, encore une fois, le marché à actions anticipe aussi cette baisse des BPA.
Ouais, c'est déjà un petit peu rentré dans les mentalités, on va dire, et dans les cours.
Les analystes anticipent encore une croissance des BPA l'année prochaine de 5%. Mmh. Le marché à actions, si je regarde, il est assez bien corrélé avec les révisions de BPA, avec un temps d'avance qui est de 3 mois à peu près. Le marché à actions est à peu près cohérent avec une révision de 5%. De pourcentage. Donc, en l'occurrence, notre prévision à nous qui est que nous n'aurons pas de croissance des profits l'année prochaine. Donc, oui, ça peut générer de la volatilité sur les marchés.
Mais c'est déjà un petit peu dans les cours. Quand je
Exactement.
Vous dis. Bon. On arrive au terme de cette présentation. Il y a eu des questions posées au moment de l'inscription. Monique, et ça, c'est une question, je pense, que vous vous posez beaucoup aujourd'hui. Où allez-vous chercher de la sécurité? Mais oui, on a besoin de sécurité dans un marché aussi compliqué. Faut-il acheter de l'or ou des ETF adossés à des métaux?
C'est une très bonne question, ben oui. Parce que c'est vrai que si on regarde la corrélation entre les actions et les obligations, elle est très élevée aujourd'hui. Donc on a du mal à trouver de la sécurité dans les obligations. On a du mal aussi à trouver de la sécurité dans l'or parce que c'est un actif qui reste négativement corrélé au taux réel. Donc quand les taux réels augmentent, l'or n'est pas nécessairement une valeur refuge. Oui, c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. D'accord. L'or a tendance à bien performer, surtout quand les anticipations de croissance sont révisées à la baisse. Donc peut-être qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité pour l'or à court terme, mais nous préférons être justement surpondérés sur le cash et sur les commodités qui sont structurellement dans une période intéressante. Donc même si c'est vrai qu'une récession va forcément faire venir baisser la demande des commodités, la question qui se pose, c'est est-ce que la demande va rester supérieure à l'offre? Et la vue de nos stratégistes commodités est oui.
Donc des ETF adossés aux métaux, c'est plutôt une bonne idée finalement.
Adossé surtout, je dirais, au prix du pétrole.
Au prix du pétrole.
Parce que les métaux ont tendance à être quand même un peu plus cycliques que le prix du pétrole.
Alors justement, de transition, tout trouvé avec une autre question qui avait été posée par Jean. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, je me dis que le prix du pétrole va rester haut. Est-ce qu'il est intéressant de revenir sur les valeurs pétrolières? La réponse est plutôt oui, j'imagine.
Et plutôt oui, et c'est vrai que, encore une fois, c'est une très bonne question par rapport au risque de récession. Quand on regarde historiquement les valeurs énergétiques, donc dans le marché actions, en amont des récessions, elles surperforment 90% du temps. En revanche, une fois que nous entrons dans la récession, elles ont tendance à sous-performer. Et c'est vrai que là, nous pensons que l'environnement est assez différent parce qu'il y a eu si peu d'investissements pendant 15 ans dans ce secteur-là. Il y a aujourd'hui un gros déficit au niveau de l'offre.
Et avant même qu'on soit dans cette situation, les compagnies pétrolières l'avaient dit, attention, il y a un sous-investissement et ça va se payer, entre guillemets, un jour ou l'autre.
Exactement. Et si je regarde aujourd'hui ce qui est reporté par les compagnies pétrolières, nous voyons qu'elles ont augmenté leur CAPEX, leurs investissements, mais pas du tout autant que ce que suggérerait le niveau actuel du Brent. Donc ça signifie que structurellement, nous allons rester dans un marché déficitaire pendant encore de longs mois. Et encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, les multiples, les niveaux de valorisation sont attractifs pour ces entreprises-là. Elles dégagent un free cash flow yield aujourd'hui qui est proche de 16%. Ça, d'accord, c'est deux fois le niveau du marché.
Donc le rendement de leur cash flow libre.
Voilà.
Je suis désolé, je traduis pour tous les gens qui nous regardent. On va terminer rapidement avec cette question d'Eric qui agite aussi un spectre, à mon sens, qui doit parler à beaucoup d'investisseurs. Est-ce qu'une remontée trop brutale des taux ne risque pas de déstabiliser tout le marché obligataire? Comment 1994, c'était quoi? C'était Alan Greenspan, c'était le crack obligataire. Est-ce que ça nous pend au nez, ce crack obligataire, aujourd'hui?
Ce qui est à moi ce qui me préoccupe le plus, c'est surtout la corrélation entre les obligations et les actions. Et c'est vrai que s'il y a une remontée des taux brutale, on a tendance à voir les deux classes d'actifs qui donnent des rendements négatifs, ce qui était le cas à l'époque. Et d'ailleurs, si je regarde depuis le début de l'année, un portefeuille classique 60-40, donc investi à 60% dans les actions et 40% dans les obligations, a eu son pire début d'année depuis 1960 à cause de cette corrélation négative. Donc, encore une fois, oui, c'est un risque et c'est pour ça qu'on va chercher de la sécurité dans les commodités, dans les actifs d'infrastructure, les actifs réels qui ont tendance à bien performer dans des périodes où l'inflation est élevée et s'accélère.
On a une question qui est tombée en direct, qui est un peu la droite ligne de ce qu'on est en train de dire. Faut-il se retirer radicalement, faut-il se retirer radicalement des obligations en ce moment? Est-ce qu'on se retire radicalement des obligations?
Alors ça serait tactiquement assez compliqué à court terme. En général, quand on a un bear market, et nous, nous anticipons, donc pour être bien clair, une prolongation encore de ce bear market, c'est assez rare que les obligations soient la classe d'actifs qui sous-performe. Si je regarde par exemple les années 70, donc les années de référence pour la stagflation, donc pas de croissance et inflation forte, cette décennie-là s'est ouverte par un gros crack sur le marché obligataire oui. et actions, oui. mais les actions ont largement sous-performé les obligations tout de même.
Bon, et ben voilà, on a apporté, j'espère, pas mal de réponses concrètes sur une situation compliquée et les choix à faire. C'était Lilia Pétavin, directrice exécutive et stratégiste de portefeuille chez Goldman Sachs. Merci beaucoup, Lilia.
Merci, Laurent. Merci.
Cette webconférence est terminée, mais ce n'est pas encore la fin de Bourse Live Les Rencontres. Restez avec nous, ça revient dans 15 minutes. Merci beaucoup.